French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de me rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc de comment créer son podcast. Alors, je n'arrivais pas vraiment à me décider sur le format. Je vous en avais parlé sur Instagram. Je vous avais demandé est-ce que vous préférez une vidéo IGTV ou une version podcast. Et finalement, le résultat était assez mitigé. Alors du coup, je vous prépare en même temps une vidéo et un podcast. Si vous voulez voir la vidéo, rendez-vous sur mon compte Instagram @afinboston. Et puis le podcast, c'est un hors-série que je sors sur mes deux podcasts, French Expat le podcast et Alors c'est pour bientôt. Alors faisons connaissance, moi c'est Anne Fleur, j'ai 34 ans et je vis dans la banlieue hippie de Boston avec mon mari et mon petit garçon. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu la chance de découvrir le monde de la radio en rejoignant une radio Ferrarock Graphite dans l'Oise pour ceux qui connaissent, en tant que chroniqueuse d'abord, puis animatrice d'une émission entière en direct et même présidente de la station de radio. Puis je suis partie aux États-Unis, je n'ai jamais vraiment osé retenter l'expérience ici, l'accent français a coupé au couteau, le manque de confiance en moi, bref, avance rapide, me voilà à Boston, maman depuis quelques mois quand je décide de lancer mon tout premier podcast pour donner la parole aux expatriés français répartis aux quatre coins du monde. J'en parle sur Instagram et l'équipe que vous connaissez peut-être d'ailleurs me rejoint rapidement dans cette aventure. C'est la naissance de French Expat, le podcast. Puis ma nature boulimique de la vie me rattrape assez rapidement et puis un autre projet qui me tient également énormément à cœur depuis plusieurs années ressurgit pour s'imposer à moi comme une évidence. Il faut parler fertilité dans l'espace public, il faut donner la parole aux femmes et aux couples qui passe par la PMA, il faut faciliter la recherche de témoignages sur le sujet. Et c'est ainsi que mon petit dernier, Alors c'est pour bientôt, vit le jour. Aujourd'hui, avec la production d'un peu moins de 70 épisodes à mon actif cette année uniquement, j'ai décidé donc de répondre aux questions que je reçois le plus souvent sur mon compte Instagram afin de vous aider à lancer votre podcast. Alors, j'ai essayé de classer un petit peu vos différentes questions par ordre qui m'a semblé à peu près logique, on va voir. Je vais commencer d'abord sur comment est-ce que on crée notre contenu et ce qu'on va mettre dans un épisode. La première question, c'était donc comment est-ce qu'on va préparer notre générique et notre introduction. Alors bien sûr, il y a plein d'options, la liste que je vais vous donner, elle est loin d'être exhaustive. Je vais vous parler en tout cas de mon expérience. Pour le jingle de French Expat...
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Voilà, vous l'avez écouté. C'est une copine, en fait, freelance qui fait des voix off sur Fiverr qui me l'a faite. Ça m'a coûté $10, alors que celui de Alors c'est pour bientôt. Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité.
Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis...
Je l'ai fait moi-même. En ce qui concerne la musique c'est d'abord hyper important qu'elle soit libre de droit, donc royalty free. Je vous invite à aller faire un tour sur Wikicommons, c'est une option. Sinon Google est vraiment votre ami, vous pouvez taper sur Google musique libre de droit ou musique royalty free et puis si possible gratuite et vous devriez trouver votre bonheur. Moi personnellement je passe généralement par YouTube parce que c'est une base de données hyper importante. Vous tapez YouTube royalty free music et il y a énormément de choix. Alors attention par contre à bien lire les licences que les auteurs vous accordent. Il y a certaines licences de musique gratuites qui exigent tout de même que vous citiez l'auteur dans les notes du podcast. Alors faites bien attention à ça, bien entendu. Alors une fois que vous avez la musique, vous pouvez vous faire un générique, c'est un peu comme vous voulez. Et puis l'introduction, alors l'introduction ça peut tenir en une phrase. Au début moi de French Expat le podcast, j'avais une intro qui était assez longue sur le projet, sur le podcast et même sur moi. Et finalement je trouve que raccourcir cette introduction, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de préparer pour la saison 2, vous verrez. Je trouve qu'en tant qu'auditeur, c'est plus agréable, on a envie de rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus rapidement. Surtout quand on est un éditeur fidèle, finalement, cette introduction, on la connaît presque par cœur et c'est vraiment chiant, quoi. Par contre, un truc sur lequel je transige pas, pour moi, c'est important de faire une introduction qui est propre à mon épisode, donc propre à mon invité, sur lequel je présente mon invité. Je raconte un peu ce dont on va parler et j'essaye, en fait, comme ça, de donner envie à l'auditeur d'écouter tout l'épisode sous forme d'un petit teasing. Alors après, ça marche pas, voilà. En tout cas, c'est l'intention. La question suivante que vous m'avez posée régulièrement, c'est donc comment préparer ces épisodes. Alors là, c'est difficile à nouveau de faire une règle franche, je dirais, puisqu'en fait, ça va dépendre du format et de la vision que vous avez pour votre podcast. Mes deux podcasts dont je vous parlais un petit peu plus tôt, ce sont des podcasts interviews, témoignages, ce qui demande plus de logistique qu'un podcast seul face au micro, certes, mais ce n'est pas non plus la même préparation en termes de contenu. Dans French Expat, le podcast, je n'invite pas quelqu'un avec qui je n'aimerais pas aller discuter dans la vraie vie. Il faut que l'histoire me fasse un peu trépigner d'impatience à l'idée d'en parler avec mon invité. Je trouve que ça rend l'épisode beaucoup plus profond et dynamique. Donc alors c'est pour bientôt, alors bien sûr j'ai envie de rencontrer mes invités mais je privilégie aussi énormément la diversité des parcours. Face au micro ou sous forme de chronique, c'est encore hyper différent. On en fait quelques-uns sous forme de hors-série, notamment dans French Expat et j'adore ça mais c'est beaucoup plus scripté. En tout cas c'est comme ça que moi je le fais. La preuve d'ailleurs, ce que je suis en train de vous raconter, je l'ai écrit. Voilà. Après, moi je suis un petit peu control freak comme on dit ici, c'est-à-dire que j'aime bien avoir la main sur chaque détail et voilà, pouvoir un peu tout contrôler. Alors malheureusement, ça ne veut pas dire que je ne loupe pas de détails, mais en tout cas je fais de mon mieux. Et du coup, j'ai un calendrier de production sur Google Drive, donc dans une feuille de calcul avec toute la saison. J'ai les coordonnées de chaque invité, épisode par épisode, le thème, qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce que la prise de rendez-vous a été faite, est-ce que l'interview a été enregistrée, montée, est-ce que le mail de remerciement a été envoyé, est-ce que les visuels ont été préparés, est-ce que l'épisode a été programmé pour diffusion, est-ce que les posts réseaux sociaux étaient programmés pour diffusion, est-ce que l'épisode est sorti, etc., etc. Et donc ça m'aide énormément à rester organisée et puis du coup en fait à collaborer aussi puisque sur mes deux podcasts maintenant j'ai beaucoup de chance de travailler avec une super équipe. Alors en parlant d'équipe, donc sur French Expat le podcast, c'est donc une équipe, nous sommes quatre. J'ai le plaisir donc de collaborer avec Manon qui nous a rejoint de la première. Manon qui s'occupe donc de tous nos réseaux sociaux et qui fait un peu donc du growth hacking, qui cherche à connecter avec la communauté et voilà, et à faire connaître le podcast. Ensuite, il y a Charlotte qui nous a rejointe pas longtemps après, qui elle s'occupe de toutes les relations avec les invités. C'est notre manager de production. Elle m'aide aussi donc énormément sur la préparation des hors-séries, sur la préparation du sujet et sur les différents angles dont on va traiter. Et puis, plus récemment, nous avons Caroline qui nous a rejointe et qui est donc notre proofreader, donc qui relie tout et qui s'assure qu'en gros, tout ce qui sort au nom de French Expat, le podcast, et aussi de Alors c'est pour bientôt, puisqu'elle le fait sur les deux podcasts, est précis, grammaticalement et orthographiquement correct et que ça ne fout pas trop la honte. Quant à Alors c'est pour bientôt, donc l'équipe est un petit peu plus jeune puisque le podcast est aussi un petit peu plus jeune. J'ai donc historiquement la première qui nous a rejointe, il me semble que c'est Nelly. Nelly qui est une maman qui est passée aussi par la PMA, qui nous a rejoint depuis l'Ardèche et qui s'occupe donc de nos réseaux sociaux et pareil du growth hacking. Il y a Fanny qui, c'est rigolo, est aussi expatriée dans l'Ohio et qui est donc notre designer est chargé de communication. Et puis enfin, donc il y a Caroline dont je vous parlais, qui est basée en Californie. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de chance et je pense que ça joue énormément sur le temps que je peux justement dédier à ce podcast, l'énorme coup de main que j'ai de ces deux superbes équipes. Une de vos questions aussi que vous me posez régulièrement, c'est est-ce que la fréquence de diffusion est importante ? Alors moi, personnellement, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je pense que oui, et surtout au début. Je m'explique, quand on cherche à lancer sa marque et à entrer dans les habitudes des personnes qui sont nos auditeurs, je suis convaincue qu'avoir un rendez-vous fixe, hebdomadaire, bimensuel ou ce que vous voulez, c'est hyper important. Ça crée en fait un cadre pour vos auditeurs qui savent quand vous attendre. Je pense aussi en fait que ça crée d'ailleurs un cadre côté production parce que ça permet d'instaurer une cadence et la machine, vous le verrez, devient de mieux en mieux huilée et donc au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile pour vous aussi. À titre d'exemple, moi j'ai commencé, Alors c'est pour bientôt, donc mon second podcast qui a quelques mois, j'étais partie en me disant écoute, je le ferai tous les 15 jours histoire d'avoir bien le temps de sortir chaque épisode. Mais après moi je suis un peu à chaque sortie d'épisode en fait de mes podcasts, je suis un peu comme un enfant la veille de Noël, c'est-à-dire que je suis surexcitée la veille. J'ai un épisode de French Expat qui sort tous les lundis et un épisode de Alors c'est pour bientôt qui sort tous les mercredis. Donc tous les dimanches soirs et tous les mardis soirs, je suis surexcitée à l'idée en fait voilà de partager une nouvelle histoire. Et je me suis rendu compte en fait finalement que l'attente était beaucoup trop longue pour moi avec Alors c'est pour bientôt d'avoir à attendre 15 jours entre deux épisodes. Donc voilà, enfin ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Et puis je m'étais dit aussi peut-être que en cherchant à imposer un peu le podcast voilà auprès d'une audience, d'une communauté qui existe déjà, notamment sur Instagram, c'est par là que je suis passée pour la promotion au début, et ben en proposant suffisamment régulièrement et souvent, je dirais, des épisodes, j'avais un peu peur qu'on m'oublie en fait, si j'en sortais tous les 15 jours. Après, il y a des excellents podcasts qui cartonnent, qui sortent tous les 15 jours, je pense notamment à Transfer de Slate.fr. Donc voilà, c'est pas... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que ça dépend forcément de vos budgets marketing. Ça dépend aussi des capacités de chacun. Je pense que ça sert à rien de faire quelque chose de rapide et un peu à l'arrache. Si vous avez besoin de 15 jours, si vous avez besoin d'un mois pour sortir un épisode, bah il faut le prendre parce que ça. C'est important, je pense, que vous soyez hyper fier de ce que vous allez sortir. Que vous ayez, alors peut-être pas dans la même mesure que moi, mais que vous ayez cet engouement de veille de Noël, comme moi j'ai à chaque veille de sortie d'épisode. Après, la suite de vos questions porte beaucoup sur le matériel et sur l'aspect technique du podcast. Alors, le matériel dont vous avez besoin pour démarrer, c'est votre grande question. Non, vous n'avez pas besoin de d'investir des centaines d'euros ou de dollars dans votre podcast, en tout cas pas pour commencer. Pour moi, le strict minimum, c'est d'avoir un bon micro. Avoir un bon micro, ça rend quand même vachement plus agréable l'écoute. Et voilà, on cherche quelque chose d'un peu qualitatif. Je vous mettrai d'ailleurs les références de celui que j'utilise actuellement dans les notes. J'en ai testé pas mal pour être honnête et je voulais en avoir plusieurs pour gérer des interviews en personne à plusieurs sans avoir à se passer le micro. Parce qu'en fait, quand on se passe le micro, c'est tout con, mais généralement, j'ai quelqu'un, imaginez-vous, fermez les yeux, j'ai quelqu'un en face de moi qui me tend un micro, on m'a posé une question, et ben en fait, vous allez commencer à répondre avant d'avoir le micro juste devant vous. J'ai finalement, moi, opté pour le ATR 2100. USB, ça coûte moins de $100, donc je trouve vraiment excellent, excellente qualité, avec une petite bonnette en mousse dessus pour limiter les pop-up qui me rendent folle. Et puis voilà quoi, ça marche vraiment très très bien, j'en ai acheté deux comme ça. Si vous faites des interviews en personne, donc en donnant le micro à votre invité, je suis moi un peu de l'équipe anti-trépied. Je sais que ça fait très classe, que ça fait des belles photos Instagram et tout ce que vous voulez, mais je trouve que... On bouge, en fait, on est humain. Le podcast, par essence, c'est authentique et c'est voilà une personne qui vous raconte quelque chose qui, généralement, la passionne. Et c'est des gens un peu, je sais pas, comme moi, et franchement, je suis pas unique là-dessus, qui va bouger, qui va tourner la tête. Si vous le tenez dans votre main, le micro, eh ben il va tourner avec vous. Alors que si vous le mettez sur un trépied devant vous, eh ben il y a des chances que lorsque vous tournez la tête, et ben voilà, comme là je fais, vous ne m'entendez plus, là vous m'entendez, et là je retourne la tête, et voilà. Donc c'est pas la même qualité, voilà. Ça peut paraître un détail, mais en tout cas pour moi c'est important. Après, si vous faites toujours donc des interviews en personne, l'enregistreur va être important. Je vous en parle dans une minute. Et puis bah bien sûr, c'est important que vous ayez un ordinateur afin donc de pouvoir importer vos épisodes et les monter. On y reviendra également. Enfin, un truc qui a priori coûte pas grand chose puisque j'espère que vous avez ça à disposition. C'est un endroit au calme pour enregistrer. Alors, je connais des super podcasteurs qui sont en coloc, qui n'ont pas particulièrement d'endroit calme chez eux, mais qui font ça, je sais pas, dans leur espace de coworking. Et puis, bien sûr, une connexion internet correcte pour mettre en ligne vos épisodes à minima. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour enregistrer le podcast ? Une des questions qui m'est revenue d'ailleurs, c'était comment enregistrer façon radio à plusieurs en même temps. Alors, pour enregistrer à plus d'une personne, donc je ne suis pas seule dans tout mon podcast, je vais avoir un invité, soit t'enregistres en personne, et là, il te faut un enregistreur, car la carte son de ton ordinateur, en fait, ne te permet pas de connecter deux micros et donc d'avoir deux entrées son, ou plusieurs, ou plus de deux d'ailleurs. Et c'est génial car tu maîtrises la qualité du son de ton ou de tes invités. Ça limite par contre le périmètre géographique de tes intervenants puisque bah voilà, dans le cadre d'un podcast comme French Expat, si je veux interviewer des gens aux quatre coins du monde, je vais pas passer ma vie dans l'avion. Enfin, j'ai ni le budget ni le temps pour aller malheureusement tous les rencontrer. Soit, sinon, tu enregistres à distance sur une plateforme en ligne. Là, tu es tributaire de la qualité audio du côté de ton invité ainsi de sa connexion internet, mais c'est 1000 fois moins cher qu'un enregistreur. J'ai la chance d'avoir un enregistreur Zoom H4N Pro. Merci Père Noël pour les interviews en personne. Ça coûte entre 150 et 200 dollars à peu près selon les magasins et en ligne. Les plateformes que j'utilise pour enregistrer à distance, en priorité j'utilise Ringer, R-I-N-G-R, je vous mettrai les liens pareil dans les notes, qui est gratuit un mois et qui sinon enfin voilà coûte pas très très cher. Il est vraiment très très bien, j'ai un abonnement payant, j'en suis ravie. Avant j'utilisais Zencastr, Z-E-N-C-A-S-T-R, mais j'ai eu énormément de problèmes avec la plateforme niveau qualité et compression du son. Et puis, je me suis un peu fâchée avec eux puisqu'ils ont eu de gros soucis de surcharge sur leur serveur il y a quelques mois et que j'ai perdu pas mal d'épisodes. Je trouve donc en tout cas que le rendu avec Ringer n'a rien à voir. J'utilise aussi Zoom en backup, Zoom donc de vidéoconférence, on coupe la vidéo. Et c'est pas mal. D'ailleurs, l'épisode de French Expat, le podcast qui sort cette semaine avec Allison, a été enregistré sur Zoom. Et puis comme je suis un peu parano, surtout en ce moment, et que je me suis fait avoir plusieurs fois avec les connexions internet moyennement stables, je demande souvent à mon invité de lancer le dictaphone de son téléphone pendant l'enregistrement, histoire qu'on ait un backup si jamais il y a une interruption de la connexion internet un peu impromptue. Et je l'ai déjà utilisé. Si vous écoutez French Expat, le podcast, l'interview de Julie à Bali qui est sortie en décembre 2019, c'est uniquement la voix qui a été enregistrée via son téléphone. Alexandra, sur Alors c'est pour bientôt, c'est aussi uniquement avec son dictaphone de son téléphone. Après le montage, donc on me demande est-ce que c'est facile, notamment pour un débutant qui n'a pas de compétences techniques. Alors je trouve pas que ce soit très compliqué, mais c'est extrêmement chronophage par contre, et surtout au début. Personnellement, je faisais déjà un petit peu de montage vidéo, bien loin d'être une professionnelle, mais je pense que ça m'a aidé à prendre l'outil en main un petit peu plus rapidement. Du coup, moi, je fais tout sur Final Cut Pro, qui est l'équivalent de Logix sur Mac. La licence est à peu près à 200$, c'est une licence perpétuelle, donc c'est un achat une seule fois. Par contre, après, il y a d'excellentes autres alternatives, et notamment Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, qui est donc excellent, je le disais, et gratuit en open source, et Internet, le gros avantage, regorge de tutoriels pour vous aider à vous lancer dans le montage. Après, le coût mensuel d'un podcast. Alors, c'est une question intéressante et je vous que je ne me rendais pas compte du coût avant que vous ne me posiez la question, que je fasse la liste. Alors, j'ai tout noté pour un podcast. On est à un petit peu moins de 100$. Mais après, c'est des choix que j'ai faits. Il n'y a pas besoin de tout ça. Je vous explique. Je mets à peu près 20$ par mois dans Buzzsprout, qui est donc la plateforme de publication des épisodes. On va en parler dans quelques minutes. Je mets 10$ par mois dans Canva, qui va me permettre en fait de créer les visuels pour les podcasts. Je mets 10$ dans Buffer, qui est une plateforme de publication de posts sur les réseaux sociaux. Donc ça me permet, par exemple là, aujourd'hui on se parle, on est le 1er mai au moment où j'enregistre ça, et j'ai les posts de Alors c'est pour bientôt qui sont programmés jusqu'à début juillet. Ensuite, je mets une $15 dans un site qui s'appelle My Podcast Review, qui me permet en fait de suivre donc les avis et les notes qui sont données au podcast. Ce qui est très important, et je vais vous en reparler dans quelques secondes aussi pour vous expliquer pourquoi. Je dois mettre une $100 par an sur le site internet, qui ça aussi est vraiment pas obligatoire. Je crois que c'est $15 par an, je crois que je mets aussi $15 par an dans le domaine, FrenchExpatPodcast.com et alors c'est pour bientôt podcast.com, il me semble. Et je paye également une $10 pour Ringer, donc qui est, je vous en parlais, la plateforme d'enregistrement à distance. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez vous lancer et que vous voulez juste tester l'idée, le seul truc sur lequel vous pouvez pas transiger, c'est Buzzsprout ou une autre. Hein. Je veux dire, il y a PodcastX, Ocha, tout ce que vous voulez. C'est la plateforme de programmation, de diffusion de vos épisodes. Donc, je pense qu'à minima, sans compter l'investissement initial dans votre micro, vous pouvez peut-être vous en tirer entre 15 et $20 par mois. Alors, une question qui vous intrigue beaucoup, c'est combien de temps est-ce que je passe sur un épisode? Alors, attention, vous pouvez poser la question à n'importe quel podcasteur, je pense que la réponse sera probablement différente en fonction de la personne qui vous répond. Le montage, en tout cas, moi, va me prendre un temps qui est assez variable. Je me rends compte que au tout début, en fait, où je me suis lancée, bah, ça me prenait beaucoup plus de temps. Et puis, bah, finalement, on devient de plus en plus à l'aise avec les outils. Donc le montage va finalement prendre un temps assez variable en fonction de votre aise avec l'outil, de la qualité qui est recherchée et de la différence donc entre l'objectif et l'enregistrement de base, des effets que vous voulez ajouter éventuellement et de ce à quel point vous voulez aussi pousser la post-production. Je m'explique par exemple, moi je coupe énormément de « e » parce que en interview, j'ai tendance à dire énormément pour, je sais pas, combler les blancs, et ça m'insupporte. Quand je m'écoute, je suis incapable de m'écouter sinon. Bref, donc du coup, c'est très variable. Sur un épisode d'une heure, je dirais, mais voilà, à nouveau, ça s'applique qu'à moi, entre le montage, l'écriture de l'intro, les posts, la création des assets, la mise en ligne, etc., je pense que ça me compte à peu près 3 heures, sans compter l'heure d'enregistrement. Donc voilà, pour un épisode, je dirais que ça m'a pris 4 heures de mon temps. Comment est-ce qu'on héberge son podcast? Alors, je vous en ai touché 2 mots il y a quelques secondes. Il y a plein de plateformes qui font ça pour vous et qui le font très bien. J'ai commencé, moi, personnellement, sur SoundCloud parce que il y avait une version, alors, gratuite, mais qui permet pas de programmer. Mais voilà, qui permet en tout cas de mettre des épisodes en ligne et de voir si ça vaut le coup d'aller investir un peu d'argent, quoi. C'est aussi ce qu'on utilisait, en fait, en radio. Donc, du coup, j'étais assez familière avec l'outil. Mais c'est pas trop fait pour les podcasts. C'était très bien pour se lancer. Je suis passée après quelques mois chez Buzzsprout, que je trouve excellent, donc en termes de programmation, création du flux RSS, du référencement aussi sur les plateformes. La qualité des statistiques aussi est vraiment très très bonne. Je le recommande d'ailleurs souvent à mes clients pour qui je crée des podcasts aussi. Après, c'est pas le seul. Il y a Ausha, A-U-S-H-A, Podcastix, enfin il y en a plein. Vous pouvez chercher sur Google équivalent Buzzsprout, vous verrez qu'il y en a des dizaines. Comment se passe la publication sur toutes les plateformes? Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à aller chaque semaine publier sur Spotify, Deezer, Apple, Google. Il y a des, enfin c'est le but justement de cette plateforme que vous payez, que Buzzsprout, là moi que je paye $20 par mois. Alors la base c'est Apple Podcast et vous avez certainement dû l'entendre plein de fois en écoutant des podcasts. À la fin ou au début on vous dit oh là là, je sais que c'est un peu chiant à faire, mais s'il vous plaît donnez 5 étoiles au podcast, allez y mettre un petit review. En fait c'est parce que 3/4 des écoutes de podcasts viennent de cette plateforme. Apple Podcast, en fait, écoute aussi les podcasts et va les mettre relativement souvent en avant ou non, quoi. Et en fait, l'algorithme de Apple Podcast, c'est un peu comme des réseaux sociaux, je dirais. Il va utiliser le nombre de fois où vous avez eu des 5 étoiles, en tout cas la moyenne que vous avez en étoile, donc en avis, le nombre d'avis que vous avez et le nombre de petits commentaires que vous allez avoir, le nombre de gens qui sont abonnés, etc., etc. Et comme ça représente 3/4 des auditeurs de podcasts en général dans le monde, et ben voilà, Apple Podcast c'est hyper important. Du coup, la stratégie que je recommande le plus souvent à mes clients, c'est de monter une maquette, un teaser, une bande-annonce qualitative et assez rapidement, et de le soumettre à Apple Podcast. Ça peut leur prendre, je sais pas, 15 jours, 3 semaines avant de valider, donc à faire tout de suite. En parallèle, vous pouvez vous atteler du coup à programmer et ou publier votre bande-annonce sur les autres, donc Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcast. J'avais demandé carrément à ma communauté sur Instagram, où est-ce que vous écoutez vos podcasts? Et donc, ça m'avait permis de faire un peu une liste et de m'assurer que je m'occupais donc du référencement du podcast sur toutes ces plateformes. Et puis du coup, une fois que Apple accepte, vous êtes alors officiellement en ligne. Et moi, je vous conseille à ce moment-là d'aller communiquer autour de la sortie de votre podcast. La publication sur ces plateformes de podcast, elle n'est pas payante, c'est la bonne nouvelle. Mais les plateformes donc telles que Buzzsprout, Ausha, Podcastix, comme je vous le disais, sont payantes afin de pouvoir, entre autres choses, programmer les publications. Alors, la question suivante que vous m'avez posée régulièrement, c'est comment est-ce qu'on trouve ses auditeurs? C'est un mystère et je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette magique à tout ça. La plupart du temps, quand on lance un podcast, c'est quand même sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher au sein de sa propre communauté. Votre communauté, elle n'est pas forcément sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, mais c'est voilà dans l'asso dans laquelle vous allez passer du temps, dans votre famille, dans votre cercle d'amis. C'est eux, en fait, qui partagent ce projet avec vous. Et c'est eux qui vont être vos premiers clients, même si c'est gratuit, mais vos premiers auditeurs, c'est eux qui vont aller vendre finalement votre podcast auprès des leurs. Et donc, c'est hyper important de bien vous occuper d'eux. Après, donc je vous le disais, Apple brasse beaucoup d'auditeurs potentiels. Et donc, l'algorithme de mise en avant marche avec les 5 étoiles et les avis en ligne. Donc, à ne surtout pas négliger. Après, moi, j'utilise Instagram aussi. C'est ma principale source de nouveaux auditeurs. Et j'avais aussi créé des flyers, alors notamment pour le podcast sur la fertilité, que j'avais proposé, donc j'avais envoyé à des auditeurs et auditrices pour aller déposer dans leur centre de PMA. Après, pour aider votre podcast un petit peu à se faire connaître au sein d'une communauté, n'hésitez pas à, si vous faites un podcast donc avec interview, n'hésitez pas à aller interviewer, si c'est une histoire qui vous intéresse, bien entendu, un invité ou une invitée qui aurait un cercle d'influence intéressant auprès de la communauté que vous cherchez à toucher. Et puis, si vos valeurs sont communes, même sans interviewer cette personne, un petit message en demandant de vous aider à mettre en avant le podcast, ça ne peut jamais faire de mal. Faut y aller. Alors, la question suivante que vous m'avez posée, ça m'a fait un petit peu rire. C'est bon, alors franchement, Anne-Fleur, combien de temps ça te prend par semaine? Alors, moi, je vous le disais au début de tout ceci, je suis un peu boulimique de la vie et j'adore en fait ce que je fais. Alors du coup, mes soirées sont très dédiées au podcast et je remercie infiniment mon petit mari d'être si compréhensif avec tout ça. Je compte pas trop mes heures et pour aider d'ailleurs avec les différents fuseaux horaires de mes invités, je fais souvent des interviews à 5h du matin pour pas empiéter sur mon boulot ni sur ma vie de famille. Un truc que je sacrifie pas, bah c'est bien sûr mon travail, mais c'est surtout ma famille. Je n'interviewe jamais le week-end. Le week-end, c'est pour moi, mon mari et mon fils. Alors à vous du coup de fixer vos limites, en fait. Prévoyez pas d'en faire trop et souvenez-vous que la clé, selon moi en tout cas, c'est la régularité. Et enfin, pour terminer donc ce premier épisode un peu hors série sur la création de son podcast, vous m'avez demandé comment est-ce qu'on peut se rémunérer avec un podcast et même on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ferait un podcast si l'on ne peut pas en gagner d'argent. Alors, je vais commencer par la fin de la question. Moi, personnellement, je ne suis pas rémunérée en faisant mon podcast et pour moi, c'est un hobby en fait, enfin comme si, je jouais au foot ou au golf, donc ça a un coût certain tous les mois, mais c'est quelque chose qui m'éclate. Pour vous rémunérer avec votre podcast, on a été approché pas mal sur le podcast French Expat et récemment aussi sur Alors c'est pour bientôt. Il y a différentes offres de publicité qui sont possibles sur vos podcasts. Pour moi, c'est hyper important que ce soit des messages qui soient en accord direct et en relation, je dirais, direct avec ce dont vous parlez dans votre podcast, enfin pour que ça ait du sens. Et pour que ce soit pas chiant à écouter, en fait, en tant qu'auditeur, si je vous parle de fertilité et que je vous fais de la pub pour les coques de téléphone, vous allez me dire « mais on s'en fout, Anne-Fleur !» Et vous auriez bien raison. Donc voilà, en tout cas, le coût actuel sur le marché, c'est à peu près pour 1000 écoutes. Tout se fait en fait pour 1000 écoutes. C'est à peu près entre 40 et 60 euros. Donc après, bien sûr, ça va dépendre de votre podcast, ça va dépendre de, le taux de croissance, ça va dépendre de la niche sur laquelle vous êtes placé. Et une écoute, c'est pas juste j'ai cliqué et j'ai écouté 30 secondes. D'abord, on compte pas. Alors il y a des gens qui vont vous dire qu'une personne qui a écouté plus d'une minute, c'est une personne qui va certainement écouter l'épisode. C'est au début, c'est aussi ce que je croyais, puisque c'est ce qu'on m'avait dit. Et finalement, maintenant, moi, je compte les écoutes en téléchargement. Parce que voilà, je trouve que si on a téléchargé l'épisode, c'est beaucoup plus fiable en termes de durée d'écoute de chaque épisode. Voilà, c'est tout pour cette introduction à comment créer son podcast. Il y a tellement de sujets que c'est dur de tout couvrir en profondeur, mais en tout cas, c'est un début. J'espère que ça vous sera utile. Si vous voulez continuer la conversation, retrouvez-moi sur Instagram, @afinboston. Je note tous vos retours et vos questions, et puis je prévoirai éventuellement avec plaisir un nouveau hors-série sur le sujet si vous voulez approfondir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai hâte de découvrir les projets que vous avez en tête. À bientôt!
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.